Chapitre 50. Après l'attaque des Selkas, les trois galères reprirent tant bien que mal leur chemin vers les îles des Norukai. Avant l'arrivée du dieu serpent, plus de 40 pillards avaient péri. À présent, les survivants léchaient ou recousaient leurs plaies et se rengorgeaient de les avoir récoltées. Mais là, ils avaient vraiment hâte de rentrer chez eux. Sur la galère amiral, 10 esclaves seulement avaient survécu. Du coup, une partie des Norukai avait été affectée au ram, une indignité qui les mettait de très mauvaise humeur. Dévasté par la mort de Crieux, Calvert ne tolérait pas l'ombre d'une plainte. D'humeur à tuer pour une peccadille, il ne desserrait pas les dents sauf pour beugler des ordres. Agacé par les imprécations d'un pillard qui râlait sur son sort, il lui fit exploser le crâne d'un coup de poing. Après, plus personne ne se plaignit.
« Respectez votre roi !»
rugit le souverain.
« Et souvenez-vous de Crieux. Tous nous le pleurons !»
Alors qu'il ramait au rythme du tambour de Bosco, Bannon se pencha pour souffler à l'oreille de Lila.
« Pendant l'attaque, nous aurions pu mourir tous les deux. J'espère qu'un séjour dans les îles ne sera pas pire qu'une éternité derrière le voile.
J'ai choisi de te garder en vie. « Mon gars, »
lâcha la Morassite,
« à nous de décider à quoi occuper le temps qu'il nous reste. Moi, je compte faire payer leur dette de sang aux Norukai. Tôt ou tard, une occasion se présentera. »
Bannon n'avait rien à dire contre ce programme. Deux jours après l'attaque, la vigie signala que la première île était en vue. Au-delà s'étendait une zone semée de sombres masses rocheuses qui, de loin, faisait irrésistiblement penser à des chicots. Fatigués de subir l'ire de leur roi, les Norukai éclatèrent en vivat. Campé près de la figure de proue, une tête de serpent, Calvert posa une main dessus. Puis il riva les yeux sur l'île principale, une énorme galette de pierre dotée d'un port fortifié et d'une forteresse qui trônait au sommet d'une butte rocheuse.
« Mon bastion !»
lâcha Calvert, toujours sinistre. Habitué au récif, les Norukai guidèrent adroitement les trois galères jusqu'au port. Tout autour, des dizaines de navires mouillaient et d'autres restaient en construction le long des quais.
« À Ildakar, » fit Lila, « Calvert a perdu près de 100 galères, mais il en a au moins autant ici. »
Plusieurs navires étaient dans un état douteux, mais la plupart, hélas, semblaient flambant neufs.
« Les chantiers navals, »
croassa Bannon, la gorge soudain sèche.
N'ont pas interrompu la production après le départ de la flotte pour Ildakar.
Alors que l'armée d'Outros avançait à l'intérieur des terres, prête à fondre sur les villes côtières, une armada se préparait à les attaquer par la mer. Où étaient donc Nichi et Nathan? Leur aide n'aurait pas été trop.
Comment l'ancien monde peut-il résister à tout ça? Lila, que pouvons-nous faire?
D'abord trouver un moyen de nous évader. Après, nous massacrerons ces pillards.
Sur le pont, Calvert se taisait toujours, incarnation de la colère et de la haine. Une main sur le manche de sa hache, il guettait l'occasion de décapiter le premier fâcheux venu. Sa morosité ne parvenait pas à gâcher la joie de ses sujets qui rugissaient de bonheur à l'idée d'être enfin chez eux. L'une après l'autre, les trois galères entrèrent dans le petit port. Pressés de revoir leurs proches, les Norukai bavardaient joyeusement. Désignant un groupe de navires, une guerrière lança
« Regardez ! L'Ars est de retour !»
La bile lui remontant à la gorge, Bannon se remémora Lars, un des trois capitaines venus vendre leur cargaison d'esclaves à Ildakar. Poussé par ses soi-disant amis, Amos, Jed et Brock, Bannon s'était bagarré avec les esclavagistes.
« Douce mère la mère, je paierai cher pour égorger ce salopard, c'est à cause de lui que j'ai fini dans les fosses de combat !»
Lila ricana.
« Je comprends que tu le détestes, mon gars, mais pense à tout ce que tu lui dois. Sans ton ridicule combat de rue, tu n'aurais jamais profité de mes leçons. À présent, te voilà assez compétent pour étriper une foule de Norukai.
Je ferai bon usage de ton enseignement, n'en doute pas, si l'occasion finit par s'en présenter. »
Sondant les pentes autour du bastion, Bannon vit des sortes de potagers où de la mousse et des algues poussaient sur des rochers. Sur leurs îles battues par les vents, les Norukai cultivaient ce qu'ils pouvaient, le pillage subvenant à tous leurs autres besoins. Quand les galères furent à quai, les pillards libérèrent les chevilles des esclaves, mais ne détachèrent pas leurs mains. Comme du bétail, ils les firent descendre à terre.
« Conduisez-les au bastion !»
ordonna Calvert.
« Qu'ils se joignent aux domestiques et travaillent jusqu'à en crever !»
Une orucaille au physique de plantigrade approcha des prisonniers. Les jambes nues au-dessus de ses bottes montantes, elle portait un pagne de cuir clouté et un gilet en peau de requin peinait à contenir son énorme poitrine. Le visage aussi avenant qu'une enclume, elle arborait 5 longues tresses rousses, si laides qu'elles faisaient penser à autant de schlag. Dès qu'elle ouvrit la bouche, son côté reptilien s'accentua.
« Roi Calvert, j'étais lasse de t'attendre !»
Le tout dit d'une voix assez forte pour couvrir le bavardage des pillards ravis d'être de retour.
« Je suis prête à redevenir ta compagne. Ne laisse pas passer cette chance !»
La matrone avança vers le roi comme un taureau furieux. Quelques guerriers ricanèrent, mais le souverain se rembrunit un peu plus.
« Atta, depuis mon départ, je n'ai pas pensé à toi une seule fois. »«
Pareil pour moi !» beugla Atta. « J'ai pris d'autres amants, mais ils m'ont déçu. En voyant ta galère, j'ai décidé de te donner une seconde chance !»
Histoire de ponctuer ses propos, la mégère flanqua une grande claque sur l'épaule de Calvert. Lorsqu'il riposta, la faisant reculer, elle éclata de rire. Atta. Ce nom disait quelque chose à Bannon. Crayeux lui avait parlé de cette guerrière.
Un jour, souffla le jeune escrimeur à Lila, Calvert a renoncé à un raid et Atta s'est moqué de lui, le traitant de lâche. Pour se venger, il lui a cassé le nez, histoire de l'obliger à rester aussi. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux, fit Lila.
Apparemment, cette version très spéciale de l'amour courtois lui semblait tout à fait normale.
Entendant la voix de la Morassite, Atta la regarda comme si elle était un poisson vidé sur un étal.
« Qui es-tu »
grogna-t-elle.
« Tu penses pouvoir séduire mon Calvert ? Il te briserait en deux. »«
Pas avant que j'ai cassé une certaine excroissance chez lui, »
lâcha Lila. Quand des rires saluèrent cette saillie, Atta gifla Lila à la volée. Sonnée, la jeune femme tituba mais réussit à ne pas tomber. Calvert profita de l'incident pour se défiler en douce. N'ayant pas les yeux dans ses poches, Atta lui emboîta le pas. Bannon, Lila et leurs compagnons gravirent la butte jusqu'à la porte de service du bastion, qui s'ouvrit pour révéler un garde qui les foudroya du regard.
« Vous allez tous participer à la préparation du banquet. Dépêchez-vous, tas de vermine !»
À petits pas, la miteuse colonne avança dans un corridor glacé à force d'être battue par les vents. De l'eau filtrait de la voûte incrustée de sel et des algues gluantes sur le sol rendaient chaque enjambée dangereuse. Très peu couverte avec son pagne et sa bande de cuir autour des seins, Lila ne parut pas gênée par le froid, une femme d'acier déterminée à se venger tôt ou tard. Les épaules rentrées pour ne pas se cogner le crâne à la voûte, le garde prit la tête de la colonne. D'autres norokai suivirent les esclaves, les poussant quand ils n'avançaient pas assez vite. Dans un dédale de couloirs et une enfilade d'escaliers, et en l'absence de fenêtres, Bannon perdit très vite son sens de l'orientation. Lila, en revanche, enregistrait tout dans son esprit. La colonne entra enfin dans une vaste cuisine, où des fours dégageaient une chaleur étouffante. Dans les cheminées, des poissons grillaient, surveillés par des filles et des garçons de cuisine décharnés. Sur de grandes tables, d'autres malheureux préparaient le festin du soir donné en l'honneur de Calvert. Assourdi par le bruit et assailli par les odeurs, Bannon se souvint soudain de son estomac qui criait famine. Depuis des jours, il n'avait avalé que des entrailles de poisson, et voilà qu'on l'exposait à l'arôme du pain en train de cuire et du poisson à la broche.
« Mangez !»
cria un des malheureux derrière lui. Tendant ses mains liées, il tenta de s'emparer d'un morceau de pain oublié sur une table. Un garçon de cuisine lui cria d'arrêter, puis il leva le moignon qui lui tenait lieu de main gauche.
« Ne touche pas, sinon ils te mutileront et ajouteront ta main au festin !»
Les yeux ronds à cause des trésors qui les entouraient, les nouveaux esclaves de cuisine gémirent de désespoir. Un vieux type boitilla à la rencontre des Norukai.
« De nouveaux esclaves? Combien ?»
Tellement ridé qu'il faisait penser à un grain de raisin sec, le type balaya la colonne du regard.
« 10, c'est ça? Eh bien, ça n'est pas de refus. Le roi Calvert n'a pas renouvelé le personnel du bastion depuis des années. »
Visiblement ravi de se débarrasser d'un fardeau, le chef des gardes grogna quelque chose puis tira Bannon devant le vieux type. Raisin Sec prit un couteau et coupa les liens du jeune escrimeur. Ensuite, il libéra les autres esclaves en marmonnant.
20 miches de pain, 3 tonneaux de poisson salé et 5 plats d'algues, 1 pour chaque table. »
Pendant qu'il tranchait les liens d'une femme, celle-ci s'écroula. Impitoyable, Raisin Sec la saisit par les poignets et la força à se relever.
« Ce n'est pas le moment d'avoir tes vapeurs. On travaille tous. Si le banquet déplaît à Calvaire, c'est vous qu'il voudra bouffer. »
Bannon aurait parié que ce n'était pas une plaisanterie.
« Du poisson salé, » marmonna Raisin Sec. « Du poisson fumé et du poisson frais pour le roi. Cela dit, il déteste le poisson, mais il n'aime pas davantage la chèvre. »
Le vieil homme se tourna vers ses renforts.
« Je m'appelle Emmett, et je suis là pour vous aider à servir correctement le roi. Au bastion, la plupart des esclaves ne résistent pas longtemps, mais je tiens depuis 10 ans un record absolu. Si vous m'écoutez, je vous aiderai à survivre. »«
Pourquoi ferais-tu ça ? » demanda Lila.
« Parce que j'ai besoin d'aide. »
Emmett baissa la voix. Pourtant, tous les Norokai étaient partis, à l'exception d'une guerrière qui montait la garde devant la porte, l'air de s'ennuyer à mourir.
« Oui, je vous aiderai à survivre, mais vous devrez m'obéir. Si vous lui déplaisez, le roi vous brisera à tous les os sans vous tuer, histoire que vous reteniez la leçon. »
Emmett baissa les yeux sur sa jambe bancale. Lila plia les doigts et jeta un regard noir à ses poignets à vif.
« Mon objectif, c'est de tuer autant de Norokai que possible. » Je me suis laissé capturer pour ça. Avec Bannon, nous finirons par nous évader. »
Elle balaya du regard les autres esclaves.
« Si vous nous aidez, on vous emmènera. »«
Ce n'est pas le bon moyen pour survivre. »
couina Emmett.
« Les Norokai vous étriperont. Croyez-moi, j'ai vu ça plus d'une fois. » »«
Tu ne me connais pas, vieil homme. » souffla Lila.
« Même chose pour moi. Mon ami est une Morassite. Et j'ai été entraîné dans les fosses de combat d'Ildakar. Nous sommes, disons, plus compétents que des esclaves lambda. »
Emmett soupira tristement.
« S'il en est ainsi, je ne pourrai rien pour vous. »
S'ébrouant, il revint aux affaires présentes.
« Pour l'heure, nous avons du travail. Veuillez donc vous suicider après le service. » « Bien. Vous n'avez pas le temps de vous décrasser, et je n'ai pas de vêtements propres à vous distribuer, sauf à toi. » « La Mora, je ne sais quoi. Je te donnerai une vieille robe pour te couvrir un peu. »
Lila ne l'entendit pas de cette oreille.
« Je n'ai pas honte de mon corps, et ma tenue, c'est celle d'une Morassite. »
« Ici, c'est plutôt celle d'un objet de désir. Tu veux passer de table en table dans une salle pleine de Norokai des deux sexes en rut ?»«
Qu'ils essaient, le regretteront. »
Bannon se souvint de l'aspirant violeur sur la galère. Mais à son goût, une seule fois suffisait.
« Lila, il vaudrait mieux que tu n'attires pas trop leur attention. Pour combattre, choisissons notre moment. Là, ce n'est pas le bon. »
Emmett alla chercher une vieille robe de laine qui avait tout d'un sac.
« Mais là !»
implora Bannon.
« Mon gars, » admit Lila, « tu n'as peut-être pas tort. »
Sur ces mots, elle enfila l'horreur grisâtre.
« Mais je n'aime pas ça. »
Emmett se frotta nerveusement les mains.
« Bon, il est temps de commencer. » « Le capitaine Lars est déjà arrivé et le roi ne tardera plus. Vous serez tous affectés au service. »«
On peut me forcer à leur apporter à manger, » grogna Lila, « mais pas à les servir. »
Emmett déglutit péniblement.
« Mes amis, je prie pour que vous surviviez tous à ce festin, mais je n'y crois pas. »